Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh. Yidden left prepared for Shabbos Kodesh. Joy is in the air for Shabbos Kodesh. Everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh. Everyone with a role to play to greet the Shabbos.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du commentaire de la paracha de la semaine par Harold Avraham Weil, le grand rabbin de Strasbourg et du Bahreïn. Monsieur le grand rabbin, bonjour et bonne année.
Bonjour.
Bonne Jean. Année, civile.
Oui.
Ouais, d'accord.
Avec plaisir.
Cette semaine.
Pareillement.
Cette semaine, c'est la paracha de Vayechi que nous lirons demain. D'ailleurs, c'est la dernière paracha du Sefer Bereshit, du premier livre de la Torah. L'allumage des bougies à Strasbourg avant 16h31 et demain, la fin du Shabbat à partir de 17h44. Les horaires sont uniquement valables pour Strasbourg et sa région. Et nous vivons ce matin, Monsieur le Grand Rabbin, dédié cette émission à l'élévation de l'âme de Madame Ninette Azirad, la maman de notre amie Corinne. Nous pensons beaucoup à elle et à sa famille et nous présentons évidemment toutes nos condoléances à la famille Azirad. Mais Baruch Hashem, il y a aussi des bonnes nouvelles. On voulait d'abord souhaiter Mazal Tov à Maurice Dahan, qui a été réélu président du consistoire Israël de Strasbourg et du Bahreïn. On voulait souhaiter Mazal Tov également aux deux bar mitzvah de cette semaine. Il s'agit de Noam Arfi et de
Jonathan,
voilà, le fils du rabbin bien connu à Strasbourg. On souhaite évidemment Mazal Tov à toutes les familles. On n'oublie pas là aussi de souhaiter un refoua shelema à tous nos malades et un Shabbat Shalom particulier à nos aînés et aux personnes isolé. On va donc parler de la paracha de Vayechi, Monsieur le Grand Rabbin, dernière paracha du livre de Bereshit.
Tout à fait.
Là aussi, paracha assez longue et un peu compliquée.
Une paracha pas forcément compliquée, mais une paracha en
beaucoup
tout cas
de messages, en tout cas.
Voilà, avec beaucoup de messages, effectivement. Une paracha qui s'inscrit dans la continuité des sidrotes précédentes. Avec les derniers instants de Yaakov, donc c'est vraiment, ce n'est pas pour rien que le livre de Bereshit se termine dans la paracha de Vayechi, puisqu'avec la disparition du troisième patriarche de Yaakov, puis à la fin de la sidra de celle de Yosef, eh bien c'est une page qui se tourne dans l'histoire du peuple d'Israël. Le livre de Shemot, lui, débutera avec une nouvelle histoire, beaucoup plus complexe, hein, qui est celle de l'esclavage, du début de l'esclavage égyptien. Le début de cette paracha de Vayechi, c'est donc, comme je l'ai dit, Yaakov, qui sent sa fin approcher et qui va convoquer tout d'abord son fils Yosef avec ses petits-enfants, Ephraïm et Ménaché, pour les bénir, puis réunir l'ensemble de ses enfants pour les convoquer un par un, leur donner, là encore, ces dernières bénédictions, qui ne sont pas que de simples bénédictions, mais qui sont même eh bien, des recommandations. Hein. C'est ce que Yaakov souhaite faire avec ses enfants, les guider un petit peu par rapport à la mission qui est la leur dans leur vie. Et puis, dans la suite de la paracha, vers la fin de la paracha, il y aura bien sûr l'enterrement de Yaakov qui a souhaité se faire enterrer en Israël. Donc nous verrons comment est-ce que les obsèques vont s'organiser, hein, bon gré, mal gré. Et puis, la fin de la paracha qui nous surprend un petit peu parce que on s'attendait à avoir de nouveau une famille unie dans laquelle il y a une ambiance vraiment de solidarité, de fraternité qui règne. Et on se rend compte que finalement, eh bien, il reste encore les stigmates de tout ce qui s'est passé des années auparavant. Et la plaie n'a peut-être pas tout à fait cicatrisé. Les frères de Yosef prennent un petit peu peur et ils s'attendent à une vengeance éventuelle de la part de Yosef. Maintenant que le père de famille n'est plus là pour être garant de cette unité familiale, bien, finalement, Yosef, bien sûr, va rassurer ses frères. Et c'est sur la mort de Yosef que s'achève ce livre, donc sur une note un petit peu triste et qui annonce déjà des pages sombres dans l'histoire du clan Israël. Hein. La disparition de ces deux géants que sont Yaakov et Yosef entraîne forcément un chamboulement et un bouleversement dans l'histoire du peuple qui va devoir apprendre à vivre différemment et surtout à affronter toutes les difficultés de l'exil.
Alors, avant de parler de la paracha proprement dit, nos commentateurs remarquent que c'est la seule, si vous me dites si je me trompe, la seule paracha qui est stouma, c'est-à-dire fermée. En l'occurrence, il n'y a pas d'alinéa, on ne va pas à l'alinéa, on ne va pas à la ligne. Enfin, tout est collé. Pouvez nous expliquer Stouma fermé ou ouvert.
Tout à fait. Alors en fait, c'est surtout, vous avez raison de presser, que c'est la seule paracha, en fait, la seule sidra qui ne commence pas à la ligne, mais qui est collée à la précédente. Voilà, on a une autre paracha qui est écrite d'un seul bloc, d'un seul tenant, qui est la paracha de Vayetse, sauf que dans la paracha de Vayetse, c'est la paracha en elle-même qui est écrite d'un seul bloc, mais la paracha de Vayetse est bien distinguée de la précédente, tout comme la suivante sera également distinguée, on ira à la ligne. Ce qui est de particulier dans la paracha de Vayechi, c'est qu'elle n'est pas séparée de la fin de la paracha de Vayigash. Et d'ailleurs, c'est souvent un petit peu compliqué pour le Baal Koré, pour le lecteur, de s'y retrouver. Lorsqu'il veut démarrer paracha de Vayechi, il faut bien chercher, parce que nous, on a l'habitude d'avoir une rupture nette, et c'est très clair. Là, ce n'est pas le cas et c'est encore plus difficile lorsqu'on a de ça, jeunes ça, bnei mitzvah qui lisent pour la première fois dans la Torah. Alors, de s'y retrouver.
On verra demain à Rambam. Mais
pourquoi c'est important, voilà. Il y a une allusion. Rashi nous en donne deux explications. Et souvent, bien sûr, la manière dont le texte est agencé vient nous suggérer quelque chose. Ici, on nous suggère que la disparition d'Yaakov a créé une sorte de cécité ou de flou dans l'esprit du clal Israël. Et c'est ça, finalement, la paracha ici qui est fermée, c'est-à-dire une paracha qui est agencée de telle sorte qu'il n'y a plus de distinction entre le passé et le futur. C'est un petit peu ce qui se passe au moment où Yaakov quitte ce monde. Il y a un grand flou qui s'installe et nous ne sommes plus capables de bien distinguer les choses. Je rappelle que l'objectif d'une paracha, c'est, comme j'ai dit, de séparer les choses, de nous permettre de prendre du recul par rapport aux choses pour pouvoir mieux les analyser. Là, cette prise de recul est... devient très très difficile avec la disparition de Yaakov. Et puis c'est le début de la galoute, comme on l'a dit, c'est le début de la galoute, c'est le début de l'exil, et le début de l'exil, eh bien, ce sont les yeux du peuple d'Israël qui se ferment, et c'est ce qui est suggéré ici par cette paracha Stouma.
Alors, on le voit dans la paracha, en tout cas, c'est clairement dit, que Yaakov fait jurer pratiquement à Yosef de l'enterrer au caveau des patriarches, de l'emmener, de ne pas le faire enterrer en Égypte. Pourquoi d'abord la question est dans la réponse, mais qu'est-ce qu'il voulait vraiment éviter Yosef de se faire enterrer, de Yaakov de se faire enterrer en Égypte, il voulait éviter des choses ou,
alors votre
ou
langue a flanché, mais en réalité c'est un lapsus qui est là pour le coup est révélateur de ce qui se passera dans la fin de la paracha. Yosef formulera exactement la même demande. Il demandera, tout comme son père, à ce que, au moment de la sortie d'Égypte, ses ossements puissent également être transportés en Eretz Israël.
Mais là, c'est plus solennel. C'est plus vraiment.
C'est plus solennel. Alors, on sait quel est l'attachement de Yaakov à la terre d'Israël. Yaakov est venu en Égypte pour passer les 17 dernières années de sa vie avec son fils, après 22 ans qui ont été terribles pour lui, coupé de son fils, coupé de ses petits-enfants, apporter un deuil qui n'en a jamais été véritablement un, parce qu'au fond de lui, il a gardé l'espoir que Yosef était encore vivant. Et c'est pour cette raison, c'est un sacrifice pour Yaakov de venir en Égypte. Et nous l'avions vu, Jean, dans les sidrotes précédentes, Dieu va devoir rassurer Yaakov lorsqu'il descend en Égypte en lui disant « Ne t'inquiète pas, je serai avec toi ». Il ne faut pas imaginer que cette démarche a été facile de la part de Yaakov. Donc le fait que Yaakov veuille se faire enterrer là où il a grandi, là où il a pu s'exprimer, là où il a pu devenir Yaakov, c'est quelque chose de tout à fait légitime. Il y a une raison aussi un petit peu plus technique. Deux raisons expliquent pourquoi est-ce qu'on enterre une personne. La première, c'est par respect, ou pour éviter le bisayon, pour éviter que cette personne ne devienne méprisable aux yeux des proches, aux yeux des gens. Un corps qui se décompose n'est jamais quelque chose d'agréable, et c'est la raison pour laquelle, techniquement, on a une obligation d'enterrer la personne. La deuxième explication concerne la personne directement. Elle ne concerne pas les vivants, ceux qui restent, mais elle concerne la personne directement, et ce que l'on appelle la notion de kapara, c'est-à-dire d'expiation des fautes. La mort, c'est une expiation. C'est une expiation d'une existence. Et lorsque Yaakov demande à Yosef, si t'as immadi chesed vehemet, tu vas faire, je te demande s'il te plaît de faire pour moi un acte de bonté. Ce que Yaakov exprime et tient à faire passer comme message à son fils Yosef, c'est que s'il ne s'agissait que de remplir la première fonction de l'enterrement, ça pourrait se passer en Égypte. On aurait rempli la fonction. Yaakov, le kavod de Yaakov, son honneur aurait été préservé. Yaakov va plus loin, il dit immadi, moi ce que je te demande c'est de ne pas simplement m'éviter l'humiliation, mais c'est aussi me donner la possibilité d'avoir une capara, une expiation qui soit plus intense, qui soit plus forte. Or, elle nous apprend qu'elle est plus forte en Eretz Israël, bien sûr, qui est une terre qui respire la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, le Midrash nous dit que quiconque se fait enterrer en Israël, considéré comme s'il avait été enterré sous l'autel, sous le Mizbeach du temple du Beth Amikdash. Donc on voit l'importance et toute la grandeur lorsqu'on en a la possibilité de pouvoir se faire enterrer en Eretz Israël.
Lorsqu'on a la possibilité. Le texte nous dit que Yaakov est mort à 7 et à 540 ans, j'ai bien écouté ce que vous me disiez la dernière fois. Si le texte dit ça,
147.
C'est 147, 7 et 140, ce que je viens de dire.
Oui, tout à fait. Il a perdu 147 puisqu'il a perdu 33 ans, Jean, rappelez-vous.
Oui.
33 ans de vie, puis il aurait dû mourir à 180 ans. 33 ans de vie par rapport aux propos un petit peu déplacés qu'il a tenus lors de sa rencontre avec Pharaon. Et à ce moment-là, le Midrash nous avait dit que ces 33 mots qui sont sortis de sa bouche, en trop, lui ont été ôtés comme nombre d'années de vie.
Mais le vocable 7 et 140, ça... Ça correspond à quoi, les 7 ans et 140 ?
Alors là, ce que nous expliquent ici nos sages, notamment le Or HaChaim, par rapport à la manière, c'est-à-dire de commencer par le petit chiffre plutôt que de commencer par les grands chiffres, c'est de nous rappeler que dans la vie d'Yaakov, et on le sait pour tout un chacun, la vie se compose de plusieurs étapes. On a l'étape de l'enfance, on a l'étape de la vie adulte, on a l'étape du mariage, il y a l'étape de la vieillesse. Et bien pour Yaakov, on a voulu mettre en exergue ici, devant les 100 ans, les 47 années de bonheur que Yaakov a pu passer avec sa femme Rachel, mais également... Une fois la naissance et le bonheur qu'il a eu d'avoir de sa femme Rachel un fils, Yosef, qu'il a attendu pendant très longtemps hein, avec cette femme Rachel, il en a eu d'autres avec ses autres épouses, eh bien, il a passé d'abord 17 ans hein, avec Yosef, puis 17 années, 34 années en tout passées avec Yosef, plus donc c'est 10 années passées à attendre sa naissance.
On va au...
C'est 13 années, pardon.
On va au verset 8, chapitre 48. On voit une scène un peu étonnante. Yaakov est dans sa chambre. Yosef lui rend visite avec ses deux enfants, donc les petits-enfants de Yaakov. Yaakov dit, à Yosef, « Qui sont ceux-là ? » Alors quoi ? Alors il n'a pas vu que c'était ses petits-enfants parce qu'il ne le voyait plus très bien ou il y a une autre explication ?
Alors bien sûr, cette question, vous l'imaginez Jean, tout le monde la pose. À quoi joue Yaakov ? Yaakov n'est pas a priori à ce moment-là, et même si d'après ça, il est frappé de cécité, donc il aurait pu distinguer des formes, des ombres, sans distinguer véritablement de qui il s'agissait. Donc on pourrait comprendre que c'est une question naïve, en demandant je ne les perçois pas. Mais on imagine que Yaakov, c'est pertinemment avec qui Yosef s'est avancé. Yaakov n'est pas sénile, à part ça, Yaakov peut les reconnaître à la voix, même s'ils ne se sont pas exprimés. Et donc il y a bien sûr quelque chose ici de plus profond.
Bah, alors Rachid
nous dit que Yaakov est très perturbé à ce moment-là, parce qu'il vient pour les bénir, et il sent la shrinal quitter à ce moment-là, il sent qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est en train de se passer et qui l'inquiète. Yaakov se dit, mais j'ai l'impression finalement ces deux jeunes que tu m'amènes ne méritent pas, ne sont pas dignes de ma bénédiction. Et ça inquiète Yaakov. Yaakov se pose des questions, il sent qu'il va quitter ce monde et il veut s'assurer en quittant ce monde que le message qu'il a souhaité transmettre toute sa vie va bien continuer à être transmis, qu'il va bien se propager et que ses enfants et ses petits-enfants vont s'inscrire dans le chemin qui est le sien.
On va y revenir dans un instant pour la question, mais concrètement, il avait bien vu que c'était Ephraim Menassé, a priori.
Alors, il y a une très belle explication du Hosnaïm, la Torah, qui nous dit que lorsque Yaakov pose la question en disant « Mielé, qui sont ces personnes qui, a priori, même si je les connais, même si j'ai pu les apprécier déjà, eh bien, ont l'air aujourd'hui, en tout cas, de ne plus être véritablement à la hauteur ?» Ce que dit le Hosnaïm, la Torah, c'est qu'il y a parfois des personnes qui peuvent être... lorsqu'elles vont occuper une position parfaitement légitime, mais lorsqu'elles en occupent une autre, eh bien, plus forcément légitime, parce qu'on va plus exiger de ces personnes par rapport à la fonction. On attend toujours d'une personne qu'elle puisse être à la hauteur des fonctions qui sont les siennes. Maintenant que Yosef a été distingué de parmi les enfants, maintenant que Ephraim et Menaché ont été un petit peu distingués, ce que Yaakov attend de ses petits-enfants, c'est qu'ils puissent être à la hauteur de la fonction, de la mission qui leur est confiée. Et donc c'est un petit peu ça, le mielé, finalement, il vient un petit peu titiller Yosef par rapport à la légitimité de Ephraim et Menaché, par rapport à ce rôle qu'on leur a confié. C'est vraiment très très intéressant. Yaakov veut s'assurer qu'Ephraim et Menaché sont bien en mesure d'être des Shvatim à part entière.
Alors c'est ça la question, je vais y arriver. C'est les seuls petits-enfants finalement de Yaakov qui ont une tribu et qui ont un héritage dans la terre d'Israël. Pourquoi, qu'est-ce qu'ils avaient de spécial ces petits-enfants ?
ce qu'ils avaient de tout à fait spécial, c'est que ces petits-enfants ont grandi en Égypte. C'est que ces petits-enfants ont subi toute la tentation de ce que l'on peut connaître en exil. Mais ils n'ont pas grandi en Égypte. Seuls Ephraïm et Ménaché ont grandi en Égypte. Ils ont grandi avec, comme je l'ai dit, la tentation de l'exil, une double tentation ici. Parce que souvent, lorsqu'on est en exil, eh bien, on va subir les affres de la pauvreté, les affres de la discrimination, de tout ce qui peut aller avec eux. N'ont pas forcément connu ça. Ils ont connu au contraire l'attrait du pouvoir, de la richesse, de la position extrêmement importante qu'exerçait leur père et dont ils n'ont jamais joué. Et ce Srout-là est extraordinaire. Ils incarnent ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de plus noble au sein du clan Israël, la capacité à faire le dos rond, à rester attaché et ancré en ses valeurs. Ils sont un exemple et c'est la raison pour laquelle lorsqu'on bénit nos enfants, on leur souhaite d'être comme Ephraïm et comme Ménaché. On leur souhaite en toutes circonstances, pas simplement lorsque les choses vont bien, pas simplement lorsque toutes les conditions sont réunies, lorsqu'on est sur sa terre, lorsqu'a priori la vie nous sourit, de pouvoir être digne d'être des représentants du clan d'Israël, mais de l'être également lorsque les choses ne fonctionnent pas forcément comme on le souhaiterait, lorsqu'on est en exil, lorsqu'on est dans la difficulté, être capable d'incarner malgré tout l'identité du clan d'Israël de manière forte, c'est la plus grande bénédiction qui puisse exister. Et à ce titre, Ephraïm et Ménaché méritent de se distinguer d'entre tous les petits-enfants, les nombreux petits-enfants de Yaakov.
Alors, on le dit, et quand on parle d'Ephraïm Ménaché, pourtant, c'est Ménaché qui est l'aîné, Ephraïm qui est le cadet, à Yaakov qu'on a des bénis, met la main droite sur le cadet, la main gauche sur l'aîné. Pourquoi il a changé? Pourquoi il a inversé le rôle des naissances dans la bénédiction qu'il a donnée?
Ephraïm a étudié avec son grand-père. Il a pas simplement été le chouchou de son grand-père, il a été sa chavruta. Yaakov a pu transmettre, comme il l'avait fait d'ailleurs avec Yosef, rappelez-vous, si Yaakov avait manifesté cette forme de préférence par rapport à Yosef, ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas ses autres enfants, parce qu'il aimait plus Yosef que ses autres enfants, c'est tout simplement parce qu'il y avait dans la transmission de sa Torah quelque chose de particulier qui s'était instauré dans la relation qu'il entretenait avec Yosef. Et c'est la raison pour laquelle le texte nous dit qu'il y avait une complicité particulière entre Yaakov et Yosef. Cette complicité, Yaakov va également l'avoir avec Ephraïm, plus qu'avec Ménaché, puisque Ménaché, lui, s'occupait de la gouvernance et d'assister son père dans les affaires qui étaient les siennes. Et donc, il est tout à fait normal que Yaakov, au moment où il souhaite donner cette bracha, qui, encore une fois, rappelons-le, ces bénédictions ne viennent pas là pour...
Mais je reviens, c'est pas un peu comme l'histoire de Esav et de Yaakov?
Bien sûr, bien sûr que c'est comme l'histoire d'Esav et Yaakov. D'ailleurs, Yaakov s'en inspire. Yaakov est un homme intelligent. Yaakov sait s'inspirer du passé. Il sait s'inspirer de son histoire. Yaakov a compris l'aîné est toujours passé en second par rapport au premier. On l'a vu entre Ishmaël et Avraham. C'est Avraham qui s'est distingué. On l'a vu entre Yitzhak et Esav, où Yitzhak a eu la préséance sur Esav. Alors bien sûr, dans un cadre différent, puisqu'il y avait dans ces familles-là quelqu'un qui avait choisi une orientation complètement différente. Ce n'est pas le cas ici de la famille d'Yaakov. Mitato Shlema, tous ses enfants, grâce à Dieu, suivent le chemin de la Torah, mais pour autant, ils ne peuvent pas tous exercer les mêmes fonctions. Et nous avons vu même au sein de cette famille que Yosef, qui était le plus jeune, ou en tout cas l'avant-dernier, mais un des plus jeunes enfants, s'est distingué de par la Torah qui était la sienne, la pertinence, la clairvoyance qui était la sienne, d'entre ses frères. Donc, ce n'est pas faire offense à Ménaché ici que de croiser les mains, c'est simplement de dire que par rapport à ce rôle de celui qui va porter la voix de la Torah, Ephraïm incarne quelque chose ici, en tout cas, de plus grand que Ménaché. Ce n'est pas du tout faire offense à Ménaché.
Ça revient à ce que vous disiez en début d'émission, la fonction.
Voilà, tout à fait. On n'est pas ici dans ce n'est pas une remise ici de Légion d'honneur. C'est ce qu'il faut bien comprendre. On n'est pas ici dans quelque chose de convenu, Jean. On est ici dans quelque chose qui a une dimension prophétique. Et on ne s'amuse pas avec ces choses-là. Comprenez, on n'est pas simplement ici dans quelque chose qui doit respecter un certain protocole ou des règles de politesse. Yaakov est en train de transmettre une prophétie, ce qu'il a de plus intime. Et il n'y a aucune offense ici qui est faite à Ménaché. Il y a simplement remettre les choses à leur place et confier à chacun la mission qui va être la sienne.
Alors, on arrive à la fameuse série des bénédictions.
Très beau passage de la Torah.
Oui, mais trop long pour en parler à la radio en détail. Bénédictions qui sont à la fois énigmatiques, et nos commentaires disent d'ailleurs que souvent, toutes les bénédictions qui sont faites sont annoncées comme des prophéties.
Ce sont des prophéties.
Quasi messianiques, d'accord. Surtout pour Yehuda. C'est aussi votre avis, monsieur le grand rabbin, Yehuda a une là aussi une place répondante dans ces méditations. Elles sont très jolies, c'est vrai, c'est un très beau passage, mais on n'a pas le temps de les lire.
Alors bien évidemment, on n'a pas le temps de les analyser, chacune d'entre elles. Donc bien comprendre, comme je le disais, que ces bénédictions, c'est souvent un terme, les bénédictions, qui est un peu galvaudé. Il faut comprendre que ici, dans la bénédiction que Yaakov va transmettre à chacun de ses enfants, il y a un message. Ce n'est pas simplement embrasser ses enfants avant de quitter ce monde et de leur souhaiter le meilleur.
Ouais, mais c'est pas clair, il fait des allégories avec
alors
des animaux.
Tout à fait, avec des animaux, mais chaque animal exprimant un caractère, une mida tout à fait particulière, hein, un trait de caractère qui va être propre à chaque enfant et dont chaque enfant va devoir se servir pour pouvoir développer et donner le meilleur de sa personnalité. Yehuda, vous l'avez dit, va se distinguer un petit peu, puisque en toute logique, c'est l'aîné qui aurait dû exercer les fonctions de gouverneur, qui aurait dû être le roi. Or, on voit que cette royauté, eh bien, elle est confisquée à Réhouven, et pour cause, hein, d'ailleurs Yaakov va le rappeler, c'est pour ça que ces brachot sont énigmatiques, parce que lorsqu'il s'adresse à ses trois premiers enfants, bah, il a plus l'air de les maudire que de les bénir. En tout cas, il a des paroles très très dures vis-à-vis de Réhouven qui a attenté à sa couche, vis-à-vis de Shimon et Lévi qui ont eu une réaction aussi plus qu'impétueuse, impulsive, hein, rappelons-nous, contre Shrem. Et donc, on est bien sûr très très embêté avec ces trois premières bénédictions. Je l'ai, comme vous l'avez dit, on n'a pas trop le temps, donc je l'ai mis un petit peu de côté. Mais tout ça pour dire que la royauté est confisquée à ses trois premiers enfants pour finalement être confié à Yehuda. Et pourquoi est-ce qu'elle est confiée à Yehuda? Tout simplement parce que Yehuda possède justement les qualités du gouverneur. Il possède les qualités requises par la Torah, à savoir faire preuve à la fois de fermeté et d'autorité, mais tout en sachant aussi naviguer entre les eaux troubles, ne pas réagir à chaud, savoir prendre du recul. C'est très important pour un gouverneur.
Yaakov fait un casting, il dit lui il a ça, lui il a ça,
tout
lui
à
il
fait,
a ça. Mais...
Parfaitement, Yaakov a compris qu'au travers de certains...
Enfin, c'est pas un casting, c'est pas la nouvelle star.
Mais on n'est pas dans la nouvelle star, Jean. Yaakov est en train de confier des responsabilités. Et lorsqu'il confie ses responsabilités, il connaît maintenant ses enfants. Yehuda, puisqu'on parle de lui, est quelqu'un qui, même si lui aussi a pu commettre certaines erreurs, a montré ses capacités à être dans la hauda, c'est-à-dire à reconnaître ses fautes. Donc c'est quelqu'un qui sait se remettre en question. C'est très important pour un gouvernant de savoir se remettre en question. C'est ce qu'on attend finalement aussi d'un roi, de savoir parfois ne pas être une tête brûlée.
Mais les gens, ils peuvent changer par rapport à une situation. Devant un père, on fait des choses qu'on ne fait pas quand il n'est pas là. Et inversement, est-ce qu'il n'y a pas...
Ici, nous avons vu justement au travers de Réhouven, Shimon et Lévi que malgré la présence du père, eh bien, ils ont exprimé certains traits de caractère qui leur ont été extrêmement néfastes, qui l'ont été d'ailleurs pour l'ensemble du peuple. Donc on voit que certaines choses, même si on essaye parfois de se contenir un petit peu devant ses parents, eh bien, elles prennent le dessus et qu'il faut des années pour pouvoir les travailler. Donc Yaakov, en tout cas, connaît chacun de ses enfants. Réhouven aura aussi des responsabilités, Shimon et Lévi aussi. Lévi est une tribune extrêmement noble. On sait ce qui va sortir de Lévi, les Kohanim, etc. Mais ils ne peuvent pas exercer les fonctions de roi. Chaque fonction exige des qualités particulières. Lévi est bien pour une fonction qui ne sera pas celle de Yehuda, qui ne sera pas celle de Issachar, qui ne sera pas celle de Zevulun, etc. Et c'est ce que fait ici Yaakov. Et il a cette clairvoyance absolument incroyable ici d'un père qui est plus qu'un simple père, hein, qui est, on l'a dit, un patriarche, le troisième patriarche, le plus accompli d'entre eux, investi ici d'une forme de prophétie qui va, dans le bien et dans l'intérêt de ses enfants et du clan d'Israël, pouvoir dire véritablement à chacun autour de quelle mission il doit se renforcer et il doit travailler.
Alors, ce qui est aussi étonnant, c'est que Yosef demande qu'on embaume Yaakov. Or, on sait que dans la Torah, l'embaumage ou l'embaumement, je ne sais pas comment on dit, est interdit. Est-ce qu'il a manqué d'audace et de...
On est très perturbé devant cela, bien sûr. C'est une embaumée comme le font les Égyptiens. C'est quelque chose de totalement interdit par la Torah. Nous le savons, chez nous, le corps doit retourner à la terre. On parle beaucoup, hein. On a parlé des recommandations de Yaakov à Yosef au début, enterre-moi en Égypte, et on a donné les deux raisons principales qui sont ramenées par rapport à l'enterrement. Le corps doit retourner à sa source, à la terre. Donc comment est-ce qu'on peut conserver un corps? C'est totalement contraire aux exigences de la Torah. Et donc, on doit répondre à cette question. Si ici, Yosef l'a demandé, c'est que c'était justifié. C'était justifié parce que Yaakov, de par sa qualité de tzaddik, eh bien, ne pouvait pas finalement jouisser de cette cette forme d'éternité. D'ailleurs, la Gemara nous dira que Yaakov a vinou l'omètre, que Yaakov en réalité n'est jamais mort. Alors, on n'a pas le temps d'expliquer ce que signifie si Yaakov n'est jamais mort, parce qu'on sait qu'il est mort, qu'il a fini par quitter ce monde. Mais en tout cas, c'est la force finalement du corps d'un tzaddik. C'est qu'il il reste intègre.
Justement, si c'était un tzaddik, il n'aurait jamais pu périr. Embaumé ou pas.
Alors, la précaution ici que prend Yosef, c'est de faire en sorte que Yaakov ne devienne pas un objet d'idolâtrie. C'est rapporté par plusieurs mefarshim, et nous voyons la gravité de la faute de la Avodah Zarah, de l'idolâtrie, qui est telle que pour ne pas risquer de tomber dans cette Avodah Zarah, dans cette idolâtrie, Yosef est capable ici d'avoir l'audace, comme l'avait dit, le courage de demander quelque chose qui normalement est totalement interdit par la Torah, mais qui va, en l'occurrence, dans ce cas précis, éviter que Yaakov ne devienne un objet d'idolâtrie. Ça serait une catastrophe. Si Yaakov est embaumé, eh bien on attribuera la conservation de son corps non pas à quelque chose d'extraordinaire, à un miracle, mais tout simplement aux soins classiques. Donc ça met en exergue la gravité ici de l'idolâtrie. C'est fou ce qu'on est capable de faire, et la décision que Yosef ici vient prendre pour éviter que l'on en arrive à cette problématique de l'idolâtrie, qui est, rappelons-le, vraiment un des trois fautes capitales rapportées par nos sages.
On va revenir à une histoire qui finalement est déjà, s'est déjà déroulée, notamment avec Abraham. Yosef veut s'absenter de l'Égypte pour pouvoir enterrer son père. Ça, c'est normal. Et il doit demander la permission à Pharaon. Et qu'est-ce qu'il fait, Yosef? Il demande à la femme de Pharaon.
Bête paroi, c'est marqué, effectivement.
Et à ses courtisans d'aller demander si Yosef pouvait aller enterrer son père. Mais c'est le premier collaborateur de Pharaon. Yosef, ça aurait été plus simple, plus rapide de lui demander directement.
Alors, je peux vous proposer deux réponses. La première est que les choses ont changé. Nous, on est resté avec à l'esprit le fait que Yosef, effectivement, a une complicité extraordinaire avec Pharaon, qu'il était admiré, adulé, même presque par les Égyptiens. Mais le début de la paracha, qui nous fait assister au décès, aux derniers instants de Yaakov, et par le fait que justement cette paracha est Stouma, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, qu'elle est reliée à la précédente, qu'il y a une zone ici de flou, d'ombre, nous montre que quelque chose
s'est cassé,
et quelque chose se rompt au moment de la disparition de Yaakov, et qu'il y avait une certaine forme de bracha, de bénédiction qui résidait au sein du peuple, et au sein de cette famille juive, tant que Yaakov était encore vivant. Et ce ne sont pas simplement les frères de Yosef qui vont perdre en crédibilité au moment de la mort de Yaakov, mais d'après beaucoup de nos commentateurs, c'est Yosef lui-même qui tout d'un coup commence à être remis en question, qui est peut-être un petit peu moins apprécié. Et donc Yosef comprend qu'en demandant, en passant par des personnes peut-être plus légitimes que lui, ou qui auront plus de crédibilité, ou plus de susceptibles de trouver grâce plus facilement que lui aux yeux de Pharaon, eh bien sa demande sera acceptée. Il y a une autre explication beaucoup plus technique qui nous dit qu'il n'était pas de tradition qu'une personne endeuillée ne puisse pénétrer à l'intérieur du palais royal, et donc pour une raison purement technique, il fallait que Yosef demande à quelqu'un d'autre d'intervenir à sa place. C'était les codes de l'époque, on ne rentrait pas dans le palais royal lorsqu'on était en état de deuil, on imagine, avec des habits déchirés et des choses qui n'étaient pas dans la convenance de l'époque.
Alors lors de l'enterrement de Yaakov, on rapporte une histoire avec Esav, histoire plutôt marrante, on va dire, ou en tout cas un peu spécial.
Alors on va conclure avec cette histoire. Effectivement, lorsque les enfants arrivent devant la grotte de Marpella, Yosef avec ses frères pour enterrer Esav, on leur barre la route. Leur barre la route pour enterrer Yaakov. Esav leur barre la route en disant: pas question que vous pénétriez à l'intérieur de cette grotte. Cette grotte m'appartient, j'y ai ma place. Les frères lui disent: mais tu rigoles ou quoi? Nous avons la preuve que Yaakov a acheté cet endroit. Ah bon? Ben montrez-moi où se trouve ce certificat d'achat. Et on décide d'envoyer Naftali qui court très très vite en Égypte pour chercher le certificat et pouvoir enterrer Yaakov dans de bonnes conditions. Hushim, le fils de Dan, qui lui est sourd et n'a pas entendu toute cette discussion, demande ce qui se passe. On lui explique que Esav va demander le certificat d'achat de la concession. Hushim dégaine son épée et va littéralement couper la tête d'Esav, qui va rouler et pénétrer à l'intérieur de la Marat à Marpella. Ce qu'on vient nous dire, et je conclue avec ça, c'est que bien dans la vie, lorsqu'on se laisse un petit peu happer par certaines discussions, parfois qui n'ont pas lieu d'être, on risque malheureusement parfois de tomber dans le piège que nous tendent nos ennemis et que parfois, eh bien, il ne faut même pas rentrer dans les discussions, il faut savoir couper court à certaines discussions et manifester une certaine fermeté. Là, Esav a réussi à jeter un petit peu le doute et l'honneur de Yaakov a failli malheureusement être impacté par cette décision de la part des enfants. Heureusement que Hushim, lui, le petit-fils, a su agir de manière plus zélée et plus ferme.
Merci, monsieur le grand rabbin. Rendez-vous, si Dieu veut, la semaine prochaine, à même heure, à même sanction. Merci à Thomas pour la réalisation technique. Je vous souhaite un Shabbat Shalom.